France Culture. À voix nue, Caroline Brouet,
Dominique Schnapper, professeur, enseignant-chercheur, comme on dit de nos jours, en particulier à l'École des hautes études en sciences sociales, et en tant que chercheur, auteur d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à mes recherches.
Premier épisode, une quête d'indépendance. Bonjour Dominique Schnapper.
Bonjour Caroline.
Vous êtes l'une des grandes voix de la sociologie politique française, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre honoraire du Conseil constitutionnel et auteur d'un certain nombre d'ouvrages consacrés, comme vous l'avez dit, à vos recherches, autrement dit à la citoyenneté, à la démocratie, à la condition juive. Certains ont fait date. On peut citer la communauté des citoyens, la citoyenneté à l'épreuve sur la démocratie et les juifs, la relation à l'autre, avec un grand A, ou encore la démocratie providentielle. Vos deux derniers livres en date en ce début de février 2025 reprennent et rassemblent un certain nombre de ces problématiques que vous travaillez depuis 50 ans et qu'on pourrait appeler les fractures françaises. Que ce soit le chômage, l'immigration, l'islam, le judaïsme, la laïcité, le rapport à la République, à la nation. Le premier s'intitule « Temps inquiets, réflexion sociologique sur la condition juive », il a paru chez Odile Jacob. Le second, « Les désillusions de la démocratie », il a paru chez Gallimard. Et c'est de tous ces sujets que nous allons parler pendant ces 5 émissions. Mais la tradition veut que nous commencions par le commencement, Dominique Schnapper. Et nous sommes ici à Paris, chez vous, dans votre bel appartement en face du jardin du Luxembourg, dans une pièce toute bleue, dont les murs sont ornés de tableaux, tous peut-être 18e, 19e. Mais nous avons sonné en bas, à l'interphone, au nom Schnapper, Société des Amis de Raymond Aron. Et comme votre mère disait, on est toujours plus de sa famille qu'on ne croit. Je pense qu'on peut mentionner, pour commencer, effectivement, même si pendant longtemps vous n'avez pas eu envie de le revendiquer, ça vous agaçait même qu'on vous le rappelle, que vous êtes la fille de Raymond Aron. Et je commence comme ça tout en précisant que j'ai intitulé ce premier épisode « Une quête d'indépendance ». Donc au départ, vous étiez la fille de Raymond Aron. Raymond Aron, un des penseurs les plus célèbres et les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Que reste-t-il de cette filiation ?
Il y a le niveau conscient et le niveau inconscient. Je pense que, j'espère d'une certaine façon, que j'en ai hérité quelques-unes des qualités, c'est-à-dire une certaine modestie, une certaine rigueur. Mais en même temps, j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir ma propre voix, comme vous avez eu la gentillesse d'intituler cette première rencontre. Et ma propre voix m'a été facilitée par ma vie personnelle, ma vie conjugale, qui faisait que je pouvais me définir moi-même, pas seulement dans les termes intellectuels de l'héritage intellectuel de mon père. Donc j'avais à creuser ma propre voix, dont la dimension en tant que femme était importante, et permettait d'éviter d'avoir à me comparer. Je n'ai jamais songé à me comparer à mon père, d'abord parce que il me paraissait infiniment supérieur, et donc ça ne se posait pas. Je voulais construire ma vie, et j'espère avoir construit ma vie, à la fois dans son prolongement inévitable, puisque vous avez rappelé le mot de ma mère, on est toujours beaucoup plus de sa famille qu'on ne croit, mais d'une façon personnelle, qui était adapté à ce que j'étais.
Vous avez dit modestie, vous avez dit rigueur. Est-ce que justement ce joli mot d'indépendance ne serait pas le troisième terme du triptyque, Dominique Schnapper ? Indépendance parce que votre père lui-même, même pour celles et ceux qui le connaissent peu aujourd'hui, reste peut-être le penseur le plus indépendant. Il n'a jamais appartenu à aucune chapelle, il a toujours été impossible de le classer à gauche et à droite, et il revendiquait d'ailleurs cette inclassabilité. Il a aussi souffert peut-être d'une incompréhension du monde intellectuel justement quant à ses positions politiques. Il en a souffert au début des années 50 quand tous ses amis, tous ses camarades étaient devenus communistes et lui non.
Compagnon de route, en tout cas.
Compagnon de route. Et donc, cette étiquette d'indépendance lui a collé non seulement tout au long de sa vie, mais peut-être lui-même s'en est-il revendiqué. Et il me semble que vous suivez ces traces-là.
Il s'en est revendiqué, je crois qu'il en a aussi souffert, parce qu'il a été dans son projet intellectuel et son projet de vie, d'une certaine façon, l'a tenu éloigné de toutes les institutions, de toutes les modes, de tous les groupes. Et ça a été une certaine solitude qui a certainement pesé sur sa vie. J'ai été sans doute moins courageuse que lui, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins intervenue dans la vie publique et je n'ai pas connu les mêmes difficultés qu'il a pu connaître. Donc j'ai été d'une certaine façon protégée, d'abord parce que je n'ai pas traversé les mêmes expériences historiques. Je n'ai pas connu la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai connue,
mais
j'avais entre 5 et 10 ans, donc j'en ai pas fait une pleine expérience. Et au moment où le combat contre le communisme était le plus violent, j'étais adolescente et j'étais au lycée, et donc je n'ai pas eu à faire face à ce moment qui a été certainement particulièrement douloureux et difficile pour lui. Donc, c'est vrai que je respectais beaucoup l'indépendance de mes étudiants et j'aimais qu'on respecte la mienne. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir des jugements qui étaient ceux, même de ceux que je pouvais admirer ou pour lesquels je pouvais avoir de l'amitié. Je garde toujours un peu de critique dans mes admirations, un peu de distance dans mes jugements. Et je pense que c'est lié au fait que, à la fois, je pense qu'il faut chercher la vérité, mais je ne crois pas que dans nos disciplines, il y a quelque chose comme une vérité absolue qui s'impose. Et par conséquent, ça laisse une certaine liberté, une certaine distance. Et en effet, je crois que c'est un point important de ce que j'ai été ou de ce que j'ai fait, que cette idée d'indépendance. Et c'est quand même la raison profonde pour laquelle je n'ai pas pu rester dans l'orbite de Pierre Bourdieu, pour lequel il ne pouvait y avoir que des disciples. Je ne pouvais pas être un disciple de qui que ce soit. Et ça, c'était, je crois que c'était très très profond chez moi. Et c'est probablement, oui, ce que j'ai en commun avec mon père. Mais encore une fois, c'est, vous le voyez de l'extérieur, je n'ai pas eu le sentiment et je n'ai pas vécu avec l'idée qu'il fallait prolonger ou faire comme lui.
En revanche, je disais que quand vous étiez plus jeune, Dominique Schnapper, ça vous agaçait qu'on vous le rappelle. On peut comprendre pourquoi, à vrai dire. Hein. Mais aujourd'hui, en 2025, vous êtes moins réticente à parler de votre père. Vous êtes moins réticente aussi à vous dire, oui, la fille de Raymond Aron.
Oui, parce que ce que j'ai été ou ce que j'ai fait est acquis maintenant une fois pour toutes et ne changera pas fondamentalement. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir été indigne de mon propre projet. Et donc, c'est en fonction de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été, que je souhaite être perçue. Et le temps a passé, une forme de reconnaissance est advenue, qui fait que je n'ai pas le sentiment que ce soit en tant que la fille de Raymond Aron qu'on me considère. Et on me considère pour ce que je suis, avec les limites dont j'ai une conscience très aiguë, mais avec aussi le sentiment que j'ai fait ce que je pouvais faire et peut-être ce que je devais faire.
On vous considère comme la fille de Raymond Aron et de Suzanne. Qu'en est-il de l'héritage de votre mère ?
Ah, ma mère était une forte personnalité. C'était difficile de se trouver avec deux fortes personnalités comme parents, mais je pense que c'était aussi un beau défi. C'était une forte personnalité venue d'un milieu pas du tout intellectuel, petit bourgeois, qui avait découvert le monde intellectuel à travers la NRF en étant élève du lycée Victor Duruys, qui dans les années 20 et dans le milieu dans lequel elle avait été élevée, montrait une grande ouverture d'esprit de mes grands-parents, parce que normalement les filles ne faisaient pas ce genre d'études. Et au lycée Victor Duruys, il y avait les filles de tous les membres importants de la NRF. Elle y a été accueillie, appréciée, et elle-même a découvert comme ça le monde intellectuel avec une grande passion. Et puis elle a eu la chance que Simone Veil est venue y faire sa classe de philosophie, ce qu'on appelait la classe de philosophie, ce qu'on appelle maintenant la terminale. Et donc elle a eu aussi cette amitié de jeunesse avec Simone Veil. Et c'est grâce à ces relations qu'elle a pu, à Pontigny, rencontrer mon père, ce que normalement elle n'aurait jamais dû rencontrer.
Votre père qui revenait d'Allemagne?
Mon père, 3 ans. Ne me demandez pas trop. Oui, je crois qu'il revenait d'Allemagne, ou c'était autour de son voyage, puisqu'ils se sont mariés en 33, donc ils se sont rencontrés en 32. C'était pendant son séjour allemand, puisque elle est allée le retrouver en Allemagne avant d'être mariée, ce qui, à l'époque, montrait une indépendance d'esprit qui ferait sourire les jeunes générations, mais qui, dans ces milieux et à cette époque, montrait qu'il ne se soumettait pas aux normes de la bienséance de l'époque.
Vous parlez de l'époque. Je rappelle l'Allemagne 1933. Donc il a vu monter le nazisme.
Voilà. Oui. Il est parti en 31. Il a passé une première année à Cologne et la deuxième année à Berlin. Il était donc à Berlin au moment de l'autodafé des livres avec un des fils de Thomas Mann. Et il a été témoin de l'arrivée au pouvoir de Hitler, ce qui évidemment l'a marqué pour le reste de sa vie.
Ce qui l'a marqué, de même que l'a évidemment marqué la Deuxième Guerre mondiale qu'il a traversée, mais qu'il a traversée cette fois aussi en tant que père, même si vous ne l'avez pas toujours tout de suite connu, Dominique Schnapper, il faut dire que un an plus tard, après leur retour d'Allemagne à tous les deux, vous voilà, en 1934, vous êtes né le 9 novembre 1934. Autrement dit, vous avez connu la guerre entre l'âge de 5 ans et l'âge de 10 ans, ce qui laisse nécessairement des traces.
Oui, probablement. J'ai été très protégée quand je compare avec ce qu'a été l'expérience de mon mari resté en France. C'est une guerre très protégée, étant donné les circonstances. Mais enfin, malgré tout, je pense qu'il est passé quelque chose de l'angoisse des parents que mes parents ont vécu ça avec une intensité particulière. Et moi, je n'ai pas connu mon père avant 8 ans et demi.
Et vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, mon père est parti en Angleterre en juin 40, tout de suite, pour continuer le combat. Et ma mère a réussi à partir en novembre pour le Maroc, avec l'idée que ce serait plus facile de passer du Maroc vers l'Angleterre. Et elle a mis 2 ans à avoir les papiers nécessaires pour partir. Et à ce moment-là, il y a eu le débarquement américain en 1942. Il a fallu donc tout recommencer. Et donc, nous avons pu finalement partir en juillet 43, et ça ne s'invente pas, nous avons débarqué à Londres le 14 juillet à midi, ce qui est poussé de grands cris. Ma mère avait l'adresse de la revue La France Libre, donc elle a donné ça à un taxi, et nous nous sommes retrouvés le 14 juillet à midi. Et devant quelques Anglais, un peu surpris par notre... par notre enthousiasme et nos cris.
Vous dites que vous avez connu votre père à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi même, mais bon, vous l'aviez quand même connu entre 34 et 40.
Oui, mais je n'en ai aucun souvenir.
Vous n'avez pas de souvenir. Et surtout, quand vous l'avez retrouvé, en fait, vous avez dû le quitter à nouveau, vous, Dominique Schnapper, parce que les enfants ne pouvaient pas rester à Londres à cause du
bombardement. Oui, donc on m'a envoyé dans le district des Lacs. Alors tout le monde maintenant me dit, mais enfin, c'était terrible pour une enfant qui déjà avait connu la distance. Mais à l'époque, c'était la guerre. On ne se posait pas de questions psychologiques sur le destin des enfants. On sauvait sa peau. Et donc, ça n'a posé aucun problème à mes parents. Ça ne m'en a posé aucun non plus, parce que c'était la guerre. Et je me souviens très bien que après le débarquement, dans l'hiver 44-45, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant dans les journaux ? Je pensais que les journaux allaient s'arrêter, puisque les journaux ne donnaient que la guerre. Donc, on avait tellement vécu pendant la guerre, de la guerre et par la guerre, que le départ loin de Londres s'imposait, et que je ne voyais plus ce qu'allait devenir la vie commune sans la guerre. Et à ce moment-là, ma mère, ça je m'en souviens très bien, m'a dit, eh bien, il y aura la guerre avec la Russie.
Vous êtes rentré en France en 1945?
Oui, en juin 45.
Ça aussi, vous vous en souvenez?
Ah oui, ça je m'en souviens, parce que il fallait passer l'examen d'entrée en sixième. Et comme j'avais été à l'école anglaise, je ne connaissais pas les codes de l'examen d'entrée en sixième. Alors, comme j'avais été à l'Institut français, j'avais ce qu'on appelle un bon dossier pour la huitième. On appelait ça la huitième à l'époque. Mais je n'avais pas fait de septième française. Et donc, je me suis trouvée dans la surface du trapèze, que évidemment, je n'ai pas inventé. Mais heureusement, la directrice du lycée avait été assez vichyste. Et alors, dans ce dossier d'une gamine qui arrivait de Londres avec la victoire, j'ai passé l'examen d'entrée en sixième.
Au la main.
Un peu miraculeusement. Donc ça, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, d'autant plus que c'était le moment du retour des déportés. Et ce dont je me souviens, c'était la sœur de Jean Cavaillès, héros de la résistance, philosophe et mathématicien, qui allait chaque jour au Lutetia pour voir si son frère revenait. Et tous les soirs, il y avait le coup de téléphone disant qu'il n'était pas là, jusqu'au moment où on a su qu'il était mort depuis assez longtemps. Mais ça, je me souviens. Je me souviens du retour au Lutetia, ou plutôt des non-retours au Lutetia.
Mais petite fille, Dominique Schnapper, à cette époque-là, donc on est en 45, vous vous souvenez de ce lieu, mais est-ce que vous compreniez ce que ça voulait dire? Est-ce que la Shoah, qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, était déjà quelque chose de conscient, en tous les cas chez vous? Est-ce que c'est...
Pas dans le détail, pas ce qu'on a appris depuis, pas les chambres à gaz précisément, mais le malheur, la distance, la mort, oui. J'avais presque 11 ans. Les circonstances faisaient que une fillette de 11 ans avait plus d'idées que les enfants protégés que nous avons connus par la suite. Et il y avait une certaine conscience. Oui, il y avait une conscience de la mort, du tragique, de la guerre. J'ai toujours pensé que ceux pour lesquels la guerre a été purement abstraite, qui n'ont pas beaucoup d'années de moins que moi, mais qui ont quelques années de moins que moi, mais qui sont nés à la conscience vraiment après la guerre, ont une conscience historique différente. Le retour de la guerre proche, n'a pas été une révélation pour moi.
Vous dites que vous avez grandi protégé d'une certaine façon de cette guerre et de ses horreurs avec un père parti à Londres dès juin 1940. Mais vous n'avez pas été protégé, Dominique Schnapper, des drames, des tragédies de la vie qui peuvent arriver avec la perte d'êtres chers en 1950, Annus Horribilis.
Oui, ça a été pour mes parents d'abord, une année... terrible, puisque la jeune sœur qui était née à Londres en 1944, en juin 1944, est morte d'une leucémie foudroyante en 3 semaines, et que quelques mois avant était née une autre sœur qui était trisomique. Et donc, c'est évidemment, pour mes parents, ça a été une année terrible. Pour mon père, ça a été une année dont il a eu beaucoup de peine à se remettre.
Vous aviez 16 ans.
J'avais 16 ans, oui.
Dans ces années-là, 1950, à Paris, de quoi vous souvenez-vous? C'était quoi l'ambiance pour vous?
La guerre de Corée. On a cru, il y a eu un moment donné, quand ma mère était à l'hôpital pour l'accouchement de Laurence, je me souviens des discussions autour de son lit sur l'idée qu'on allait peut-être de nouveau avoir la guerre. La guerre de Corée a été... Rétrospectivement, on n'en parle pas tellement comme... On parle beaucoup de Berlin, on ne parle pas tellement de la guerre de Corée, mais sur le moment, ça a été un moment d'inquiétude. Et je me souviens de ceux qui voulaient partir à Tahiti, d'un tel qui était parti en Australie. Il y a eu un moment d'angoisse, et ça, je m'en souviens très bien.
Donc 1953, à peu près. Ça, c'est les premiers souvenirs des années 50. Souvenir aussi peut-être d'une ambiance à la maison, parce que votre père passait beaucoup de temps à travailler.
Et la vie familiale était organisée autour de son travail.
Et vous disiez que, enfin, nous disions tout à l'heure qu'il traversait une passe un peu difficile en ayant le sentiment d'être un peu seul. Malgré tout, il y avait des figures qui passaient, des figures d'intellectuels, des figures amicales, peut-être qui passaient à la maison et qui ont compté pour vous, Dominique Schnapper. Malraux, par exemple, André Malraux, notamment.
Malraux, oui. Mais c'était resté un ami de mon père et les relations étaient régulières. Mais malgré tout, dans l'après-guerre, il l'a toujours dit, les relations amicales des années 30 se sont reformées avec difficulté. Il y a eu la rupture avec Sartre et tout le milieu sartrien, qui était son milieu de jeunesse. Et Malraux s'est beaucoup enfermé dans son œuvre sur l'art et n'était pas tellement disponible dans l'amitié. Les relations étaient très bonnes, enfin très très proches, si on veut. Mais en même temps, il suivait des voies très différentes et il a souffert de la fin de beaucoup des amitiés des années 30 entre ceux qui avaient disparu à cause de la guerre et ceux qui, dans l'après-guerre, se retrouvaient sur d'autres positions que les siennes. En tout cas, jusqu'à la Hongrie, jusqu'en 56, donc ce qui fait quasiment 12 ans, il s'est senti très très seul.
Vous étiez bon élève, vous aimiez le lycée, vous faites 2 ans de philosophie, vous passez à Sciences Po, mais ça vous n'avez pas beaucoup aimé, et vous bifurquez vers l'histoire. Pourquoi l'histoire ?
Pourquoi l'histoire ? Un peu négativement, parce que je revenais de la philosophie, que Sciences Po me paraissait trop dans le contemporain, et donc ne me satisfaisait pas beaucoup. Et donc j'ai voulu conjuguer Sciences Po, non pas avec le droit qui m'ennuyait, mais avec l'histoire, avec l'idée que c'était plus proche de mes premiers intérêts qui étaient la philosophie. C'est-à-dire que de ne pas me restreindre à Sciences Po, dont je trouvais le niveau intellectuel très inférieur à celui des Cagnes, et dont les intérêts me paraissaient très limités parce qu'ils étaient limités aux contemporains. Et donc l'histoire me donnait voilà une autre dimension qui, d'une certaine façon, me permettait de prolonger ce qu'avaient été mes intérêts philosophiques pendant 2 ans. Puis heureusement que j'ai fait l'histoire, parce que sinon j'aurais sans doute jamais rencontré mon époux. Donc c'était une bonne décision, mais ça je ne le savais pas.
Et vous l'avez rencontré parce que vous avez décidé de compléter votre licence d'histoire et de géographie par un certificat de géographie. Et c'est grâce à la Sorbonne, oui. C'est grâce à cette décision-là que vous avez rencontré Antoine voilà. Schnapper, dont vous dites, Dominique Schnapper, qu'il était un rouquin avec de grosses lunettes et qu'au début, vous l'avez trouvé insupportable. Ça ressemble à un début de roman.
C'est-à-dire que je l'ai toujours tout de suite trouvé intelligent, mais insupportable, absolument. Et rouquin avec des grosses lunettes, il les a gardées.
Ça ne vous a pas empêché de l'épouser 1 an plus tard et de le suivre. Lui, il était historien de l'art et de le suivre en Italie.
Oui. C'est-à-dire qu'il était agrégé d'histoire et spécialiste d'histoire de l'art. Il avait fait l'école du Louvre en même temps que... Pendant que je faisais de l'histoire, il faisait l'école du Louvre en même temps que ses diplômes d'histoire. Et il a été l'élève d'André Chastel, qu'il a beaucoup aimé et qui nous a beaucoup protégés. Et qui était aussi un patron très libéral, c'est-à-dire qu'il n'imposait rien à ses élèves, ni leur sujet, ni leur période. Ils respectaient leur indépendance. C'était les patrons d'autrefois qui respectaient l'indépendance de leurs élèves. Et ça a été le cas d'André Chastel.
J'évoquais, pour commencer, les murs ornés de tableaux.
C'est la trace de sa vie et de sa présence.
Dans cet appartement que vous avez acquis en 1971, si je ne m'abuse, nous sommes en
1970. Nous avons déménagé en 71, mais on l'a acquis en 70.
Nous sommes en 2025. C'est dire que cet appartement est chargé d'âme et d'histoire.
Oui, c'est l'appartement de la vie.
Alors replongeons-nous dans ces années italiennes, Dominique Schnapper, à Bologne, où vous passez 2 ans. Vous faites une thèse, vous ?
Oui, j'ai fait une thèse à Bologne sur les conseils, parce que là nous sommes en 61-63. Nous avons passé donc à Bologne 61-63 sous les conseils de Pierre Bourdieu, qui venait d'être recruté par mon père comme assistant à la Sorbonne et avec lequel nous avions noué, juste avant de partir, des relations amicales très chaleureuses. Et comme nous partions à Bologne, finalement ça n'a duré que 2 ans, mais ça aurait pu durer 10 ans, enfin on ne savait pas pour combien de temps, et qu'il fallait poursuivre une vie intellectuelle, donc il m'a dirigé de loin dans ce qui est devenu ensuite ma thèse, et dont l'essentiel a été repris dans mon premier livre sur l'Italie rouge et noire.
Il vous a dirigé de loin, dites-vous, mais en rentrant de Bologne, vous passez 5 ans, entre 1963 et 1968, dans le centre de sociologie avec Pierre Bourdieu.
Oui.
Qu'avez-vous appris à ses côtés et qui faisiez-vous ?
Alors, la première enquête à laquelle j'ai participé, c'était l'enquête sur le public des musées. Ils profitaient comme ça des relations que j'avais dans le monde de l'histoire de l'art. Et j'ai appris à ce qu'était une enquête quantitative. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'une enquête, qu'est-ce que c'est que la sociologie. Et donc, j'ai passé ces 5 ans dans ce laboratoire qui se créait autour de Pierre Bourdieu, qui était très actif, très chaleureux, déjà très organisé par le patron. Mais pendant ces années-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et de ça, je lui suis reconnaissante.
Y compris de lui, d'une façon de travailler, d'une façon...
Ah oui, c'était un hyperactif qui a beaucoup travaillé, beaucoup publié, comme vous savez, beaucoup dirigé, et on apprenait beaucoup de choses. Je pense que c'était une très bonne formation. Il fallait pas rester si on voulait être indépendant, mais que c'était une très bonne formation pour débuter la sociologie.
Et la rupture a été consommée en 1968.
Oui, ça a été l'occasion. Le 1968 a été l'occasion.
Pour des raisons politiques?
Oui, un ensemble les raisons politiques renvoyant à tout un ensemble de raisons et la façon de se conduire dans ces circonstances. Mais s'il n'y avait pas eu 68, la rupture aurait été peut-être moins franche et plus tardive, mais elle serait intervenue parce que je n'aurais jamais supporté d'être le perroquet de Pierre Bourdieu, simplement en changeant de domaine, mais en appliquant toujours le même cadre intellectuel. Ça, c'était vraiment trop contraire à ce que je pouvais être.
Vous ne l'avez jamais revu après ?
Si, on s'est croisé à des tas d'occasions, comment dire, de façon courtoise. Mais quelque chose avait été totalement rompu, définitivement.
Il vous a dit quelque chose quand vous avez été nommée directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en 1981, par exemple ?
On m'a raconté qu'il avait beaucoup agi pour que je ne le sois pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas confirmé, et peu importe.
Et vos parents et votre père ?
Ça, c'était une continuation normale de la vie que je menais, il me semble. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quelque chose de particulier.
Il est mort en 1983, Raymond Aron. Oui. Vous aviez 49 ans, lui, il en avait 78. Et vous dites encore aujourd'hui, Dominique Schnapper, que ça reste un bouleversement majeur pour vous.
Oui, parce que nous avons vécu jusqu'à ce moment-là... De façon à la fois distante, physiquement, mais très proche moralement. Et donc, la vie s'était construite entre mes parents, mes enfants et nous. Et cette forme d'équilibre familial se trouvait rompue.
Mais la petite fille avait gagné son indépendance, malgré tout.
Je pense que
professionnelle
et d'une certaine façon, les livres qui sont pour moi... les plus importants, je ne sais pas s'ils le sont en eux-mêmes, mais pour moi, en tout cas, les plus importants ont été publiés après sa mort.
Merci Dominique Schnapper. On se retrouve demain pour l'épisode 2, une sociologie au cœur de la cité. À demain. C'était À Voix Nue avec Dominique Schnapper, réalisation Assia Weber, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.